Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la chronique bimensuelle des Apatrides Anonymes. Simon qui est là au micro avec vous aujourd'hui, on est sur les ondes de CKUT. À l'émission En profondeur, le lundi 27 février, il y a 2 semaines Mathieu était là, il y a 1 mois c'était Marie-Ève et dans 2 semaines ce sera le retour de Mathieu. Plusieurs suivis aujourd'hui, beaucoup de sujets en lien avec la frontière Canada-États-Unis. États-Unis, les déportations de masse s'en viennent. Il y a plusieurs signes tangibles et très concrets qui nous le démontrent. Je vous parle de Montréal, ville sanctuaire, avec un gros point d'interrogation. Tout d'abord, on va faire un petit saut en Europe et on va revenir ensuite en Amérique du Nord. Grosse manifestation à Barcelone. On estime à 160 000 à 200 000 personnes qui ont manifesté pour réclamer l'accueil des réfugiés. C'était samedi le 18 février, donc ça fait un peu plus d'une semaine. En vertu de ses engagements envers l'Union européenne, l'Espagne devait recevoir, à partir de 2015, quelque 16 000 candidats à l'asile déjà admis dans d'autres pays, mais seulement 1100 sont arrivés jusqu'à maintenant. Le défilé était organisé dans le cadre de la campagne « Chez nous, c'est chez vous » ou en catalan « Casa Nostra, Casa Vostra ». Le rassemblement de samedi 18 février était soutenu par la majorité des partis politiques, des syndicats, des associations en Catalogne. C'est vraiment la plus grande manifestation qui a été faite en Europe pour la défense des droits des réfugiés, encore plus que ce qu'on a pu voir en Allemagne. La manifestation s'est terminée symboliquement au bord de la mer Méditerranée où plus de 5000 personnes sont mortes en 2016. Et les chiffres actuels permettent de penser que le bilan de 2017 sera équivalent ou dépassera celui de 2016. Donc voilà pour l'Europe. On revient tout de suite à l'Amérique du Nord, Canada, États-Unis pour le restant de la chronique. Donc on lit, on voit de plus en plus d'histoires de réfugiés qui traversent la frontière entre les États-Unis et le Canada pour fuir les États-Unis. À travers champs, dans la neige. Mathieu vous en parlait il y a 2 semaines. Il y a beaucoup de cas qui ont été couverts. Les médias se sont rendus principalement dans la région d'Hemingford. Ça, c'est entre le Québec et l'État de New York. C'est l'effet Trump et le fait que les contrôles, la discrimination, les actes à caractère haineux sont en forte hausse chez nos voisins du Sud, que le climat social est pourri. C'est ce qui pousse beaucoup de gens à partir. Il y a d'autres facteurs aussi, mais il faudrait mentionner que le gouvernement américain a récemment décidé d'embaucher 10 000 agents d'immigration et 5 000 gardes-frontières de plus. Le gouvernement a décidé d'augmenter le nombre et la capacité de centres de détention pour les immigrants et immigrantes. Le gouvernement Trump a décidé d'expulser non plus seulement les personnes reconnues coupables d'avoir commis un crime grave, comme c'était le cas jusqu'à maintenant, mais toutes les personnes sans papier suivantes. Alors, les personnes qui ont commis des gestes pouvant faire l'objet d'une accusation criminelle ou accusées d'un crime sans même avoir été condamnées. Donc, ces personnes-là seront aussi prioritairement expulsées. Les personnes qui sont soupçonnées d'avoir fait une fausse déclaration à une agence gouvernementale. Les personnes qui sont considérées par un agent d'immigration, donc un fonctionnaire, un douanier, un commissaire, etc., comme une menace pour la sécurité. Ce qui veut dire que la vie d'un réfugié est laissée au libre arbitre d'un seul fonctionnaire. Donc, disons qu'on a intérêt à être gentil avec lui. Autre mesure, le gouvernement Trump a décidé d'encourager, de favoriser le recours aux expulsions expéditives, ce qui était quand même fait régulièrement sous Obama, mais restreint par toutes sortes de facteurs, du genre la distance à laquelle la personne se trouve par rapport à la frontière, est-ce que ça fait longtemps que la frontière a été traversée. Donc tout ça a été élargi pour favoriser le recours aux expulsions expéditives. Autre mesure que le gouvernement Trump met de l'avant, donc les personnes sans papier peuvent maintenant être détenues aussi longtemps qu'elles n'ont été entendues par un juge d'immigration, alors qu'actuellement, elles sont relâchées en attendant que leur cause soit entendue, donc ce qui peut parfois durer 1 an. Voilà toutes sortes de mesures très restrictives qui vont probablement augmenter le nombre de personnes, de familles qui vont chercher à monter vers le Canada, souvent à pied en plein champ. Ce sont des personnes qui fuient non seulement le climat pourri dont je parlais, mais le risque encore plus grand d'expulsion imminente. Ce phénomène-là donne lieu à une couverture médiatique un peu étrange. Certains journalistes, on dirait, semblent découvrir pour la première fois cette réalité. Je vous donne un exemple de couverture douteuse. C'est un article de Radio-Canada anglais de CBC que vous pourrez trouver facilement en ligne. Le titre de l'article étant « RCMP, help asylum-seeking family through snow after run-in with US Border Patrol ». Donc, il y a beaucoup de photos pour illustrer l'article. Donc, on y voit une famille, je crois, de 8 personnes traverser la frontière dans la neige avec des gros bagages. Avec des photos dans l'article, ça donne l'impression que les agents canadiens sont les gentils et les Américains les méchants. Ça correspond très bien, en fait, au narratif officiel de notre gouvernement fédéral actuel. Donc, c'est exactement l'image qu'ils souhaitent projeter. On voit les agents de la GRC tout souriants tendre la main aux arrivants en prenant les enfants dans leurs bras. Donc, il manque à peu près juste les toutous. Par contre, dans l'article, on oublie de mentionner que malgré le beau sourire là, des agents de police canadiens dans les photos, comme ces réfugiés-là arrivent de manière jugée irrégulière, ben oui, ils pourront déposer une demande de refuge plus loin dans le territoire. Mais il y a de fortes chances que toute la famille se retrouve en prison, sûrement à Laval. Les femmes séparées des hommes, les enfants séparés de leurs parents. Et puis je crois pas que les gardiens de la prison de Laval seront aussi souriants que l'agent de la GRC devant le photographe de Reuters qui a illustré ce bizarre article de la CBC. En lien avec ce sujet-là, donc la lettre signée de 200 juristes qui demandent au nouveau ministre de l'Immigration, Ahmed Hussein, d'abroger l'entente des tiers pays sûrs avec les États-Unis. Cette même entente dont les termes forcent les réfugiés à traverser la frontière en plein champ par moins 15 avec trois pieds de neige. Un peu de suivi depuis deux semaines, donc réaction officielle, le gouvernement n'entend pas se retirer de l'entente bilatérale, ni modifier l'accord, ni chercher à le modifier. Les conservateurs, eux, vont plus loin, ils veulent qu'on refoule tous les migrants qui traversent la frontière de manière dite irrégulière, mais ne précisent pas comment. Est-ce que le Canada construirait un mur et enverrait la facture à Washington? On ne sait pas. En passant, cette entente des tiers pays sûrs, c'est un héritage de Harper, donc c'est leur propre héritage politique au Parti conservateur. Donc, le plus simple serait de simplement laisser les gens déposer leur demande de refuge au point d'entrée officiel sur la route comme ça se faisait avant. Autre suivi, il y a deux semaines, on vous parlait des nombreux refoulements discriminatoires de Québécois canadiens qui souhaitaient entrer aux États-Unis, mais qui ont été refusés pour des motifs discriminatoires comme l'origine ethnique, principalement des personnes au nom à consonance arabo-musulmane. Donc, le lendemain de la précédente chronique des apatrides anonymes, donc Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique, se rendait à Washington, rencontrait son homologue du gouvernement Trump et il a pris son courage à deux mains et il n'a pas abordé le sujet avec lui, bien qu'il avait promis en chambre de le faire. Donc, l'excuse donnée aux journalistes qui le pressaient de questions, l'occasion ne s'est pas présentée. Donc, on félicite Ralph Goodale et sa grande bravoure. Je vous parle en même temps d'une nouvelle locale qui semble un peu sortir de nulle part, donc vous verrez dans quelques instants où je veux en venir. Un homme sans papier est arrêté à Montréal cette semaine, on va l'appeler David, on n'a pas son vrai nom. Il se faisait reconduire par un ami en voiture quand le SPVM a arrêté leur véhicule pour un contrôle de routine et exigé que tout le monde dans la voiture fournisse ses pièces d'identité. Donc tout le monde contrôlé, je crois pas que ce soit normal, bref. Après que la police eut entré son nom dans le système, David est arrêté en raison d'un mandat émis par l'Agence des services frontaliers et livré aux autorités de l'immigration par le service de police de la Ville de Montréal. Il est détenu à la prison pour immigrants de Laval et fait face à la déportation vers un pays où il risque pour sa sécurité en raison de son orientation sexuelle. Donc, on va résumer brièvement l'histoire de David. Il est venu au Canada pour étudier il y a plus de 6 ans. Il a été renié par sa famille lorsque les rumeurs concernant son orientation sexuelle se sont ébruitées jusque dans son pays d'origine. Donc, incapable de retourner chez lui, il a perdu son statut. Probablement que son visa arrivait à échéance et il a vécu dans l'angoisse pendant des années. Donc, étant sans papier, il s'est régulièrement vu refuser l'accès à des services essentiels et a vécu dans la crainte constante d'être détenu et déporté. Donc, la date prévue de déportation, c'était aujourd'hui, le 27 février 2017. Là, je saurais vous dire si la déportation a effectivement eu lieu, puisque je préenregistre la chronique, ça fait 2 jours pour vous. Il y a eu un développement, c'était jeudi dernier, avec une mise à jour que Solidarité sans frontières a envoyée dans ses réseaux, donc je vais vous lire ça. Après que l'Agence des services frontaliers du Canada ait refusé de freiner sa déportation, les Nations unies prennent des mesures pour demander au Canada de suspendre sa déportation jusqu'à ce que l'évaluation du risque soit faite. Le Canada n'a aucune raison de refuser la requête. Parallèlement, son avocat travaille pour qu'il soit libéré du centre de détention dès que possible en raison de l'intervention de l'ONU. Solidarité sans frontières remercie tout le monde qui a écrit, appelé et passé le mot. Donc, c'est la fin de la citation. Donc, pourquoi je vous parle spécifiquement de cette histoire? Parce que des arrestations, des déportations de personnes migrantes et réfugiées ou sans papier, il y en a des dizaines, voire des centaines par jour au Canada. Donc, pourquoi celle-ci? Donc, cette histoire, ben, qui était relayée par SSF, par Solidarité sans frontières, ça met en lumière 2 éléments particuliers. Donc, c'est là où je voulais en venir. Le fédéral qui se targue de plus en plus sur toutes les tribunes, surtout à l'international, d'être un pays accueillant les réfugiés. Ben, il fait rien dans un cas spécifique comme celui-là pour éviter la déportation, malgré les pouvoirs discrétionnaires qui sont très faciles à utiliser. Et je rappelle surtout que cette histoire s'est produite à Montréal après l'adoption d'une motion proclamant Montréal ville sanctuaire ou ville refuge. Ce sont des synonymes, ville sanctuaire, ville refuge. Lors de la dernière chronique, c'était déjà dans l'air, on vous parlait de Kodak qui tweetait à l'intention de Trump « Montréal est une ville sanctuaire et fière de l'être, on accueille les réfugiés, blablabla. » Montréal n'était pas une ville sanctuaire, donc on peut présumer que Denis Kodak ne savait pas ce qu'était une ville sanctuaire. Est-ce qu'il le sait plus maintenant? Il est probablement allé sur Wikipédia. Tout de même, l'adoption de la motion déclarant Montréal ville sanctuaire, ça fait déjà une semaine. C'est passé à l'unanimité au conseil de ville. Pourtant, comme on l'a vu avec l'histoire de David, Montréal est loin d'être une ville sanctuaire dans les faits. Donc, le nœud du problème, et c'est pas le seul élément en cause, mais c'est le fait que le service de police continue d'arrêter et de livrer des personnes sans papier aux autorités fédérales. Tant que cette question ne sera pas réglée, tant que la police n'aura pas reçu une directive ferme et claire de la part du maire ou du comité exécutif exigeant de cesser cette pratique, et tant que le SPVM ne respectera pas cette éventuelle directive, si directive il y a un jour, Montréal ne pourra pas prétendre être une ville sanctuaire ou une ville refuge. Plusieurs intervenants invités à commenter la motion adoptée de la ville parlent de campagne de relations publiques qui ne vise rien d'autre que d'affirmer un certain progressisme devant Trump, ce qui est un peu à la mode, évidemment, et ce qui est assez facile aussi. Plusieurs intervenants jugent aussi qu'une motion aussi vide et symbolique que celle-ci, en tout cas pour l'instant, elle est vide, ça pourrait avoir comme effet pervers que les personnes sans papier pourraient être tentées de prendre des risques inutiles en baissant leur niveau de vigilance, en faisant davantage confiance aux services d'urgence alors qu'elles devraient toujours s'en méfier. Donc on en appelle à la prudence pour les personnes sans papier. On constate, entre Montréal et Toronto, qui est une ville sanctuaire officiellement proclamée aussi, une différence de taille entre les deux approches, donc entre l'approche montréalaise proposée et l'approche en vigueur à Toronto. Donc, ce qui a été demandé à Montréal, à la Commission de la sécurité publique, c'est d'élaborer une nouvelle approche avec les personnes sans papier, sauf si elles sont visées par une ordonnance exécutoire, donc pour des raisons, par exemple, de sécurité. Cette mesure fait en sorte qu'on peut s'attendre à ce que l'interaction avec un policier ou avec un autre employé municipal commence un peu de la même façon qu'elle commence maintenant, c'est-à-dire par la vérification des papiers, puisque ça prend les papiers pour vérifier si la personne fait ou non l'objet d'une décision judiciaire quelconque. À Toronto, c'est plutôt la politique du « don't ask, don't tell », « ne demandez pas, ne parlez pas » qui prévaut. Donc, sans une telle approche, la situation des sans-papiers pourrait ne jamais vraiment changer. Les gens qui ont peur d'avoir recours aux services policiers ou aux autres services municipaux vont probablement continuer d'avoir peur et avec raison. En vrac, d'autres limites du concept de ville sanctuaire, qui n'est pas parfait, évidemment. Donc, même avec les meilleurs des politiques, il n'y a pas de garantie que tous les agents individuellement vont s'engager à ne pas livrer les personnes contrôlées aux autorités fédérales. On le voit à Toronto, on le voit à Vancouver, où des personnes livrées aux autorités par des agents de police ou autres employés municipaux zélés, ben ça existe encore. C'est même assez fréquent. Donc, pour les personnes qui veulent en savoir plus ou qui veulent s'impliquer dans la construction d'une vraie ville sanctuaire, donc il y a la campagne « Construisons une cité sans frontières ensemble ». Il y a un atelier tantôt. Là, je vous parle comme si on était en direct. Donc, aujourd'hui, lundi 27 février à 18h30, c'est au Cooper Concordia, 1500 de Maisonneuve-Ouest, bureau 204. C'est au métro Guy, c'est gratuit, donc ça porte en gros sur l'histoire des luttes des migrants et des migrantes à Montréal et sur la campagne pour bâtir une cité sans frontières pour une vraie ville-refuge. Et sinon, à mettre à votre agenda, spectacle bénéfice pour Solidarité sans frontières, c'est jeudi 9 mars, Casa del Popolo, donc 4873 Saint-Laurent. Contribution suggérée 5 à 10 $, donc c'est un événement spectacle hip-hop et levée de fonds pour Solidarité sans frontières. L'argent récolté va servir à financer les diverses activités et actions du collectif pour l'année à venir. Les artistes sur place, Fallon, Nazim, Chizimba, Iki Magdala du Quite Nice Crew et Micro Armé. Donc voilà, c'était Simon avec vous. Dans deux semaines, Marie-Ève sera au micro pour vous parler soit des suivis de ces dossiers très chauds, ou sinon elle vous entretiendra d'autres sujets en lien avec l'immigration, la paranoïa sécuritaire et frontalière, pour une autre chronique des apatrides anonymes, donc sur les ondes de sécurité à l'émission En profondeur. Bonne soirée!